excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Bonsoir à tous et bienvenue dans À votre avis. Merci d'écouter VOA Afrique. Au Nigeria, les autorités ont engagé des négociations avec un gang armé pour obtenir la libération de 42 personnes kidnappées d'un internat du district d'Okagara dans le centre-ouest du pays. Cette approche des autorités divise l'opinion publique au Nigeria. Qu'en pensez-vous? Faut-il négocier ou pas? Faudrait-il aussi négocier pour mettre fin aux différentes crises, notamment avec des terroristes? Et nous avons un auditeur en ligne, c'est Vincent Seounou qui se trouve au Bénin. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir chers journalistes, bonsoir chers auditeurs et auditrices de la radio VOA Afrique.
Ça faisait très longtemps.
Oui, effectivement, ça fait très longtemps.
Vincent, vous approuvez l'approche de négociation et de dialogue?
Effectivement, j'épouse vraiment les idées de traité du Nigeria parce que ça fait très longtemps que vraiment nous retirions surtout cette décision que les autorités nigériennes ont prise. Ça fait très longtemps, des années, que ces groupes terroristes continuent de faire les malheurs au pays limitrophe et aussi au Nigeria. Et ça, jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé un consensus, un moyen efficace pour lutter contre ces terroristes. Alors que ces terroristes-là sont très efficaces, puissants dans leur gestion, dans leur sale besogne. Donc, il a fallu effectivement un dialogue ou bien une négociation, si c'est contre une rançon, pour que vraiment nous ayons la paix dans les pays et aussi au Nigeria. Parce que quand ça se passe au Nigeria, ça se passe surtout au Bénin. Parce que nous sommes très, très, très liés et nous partageons surtout la même communauté linguistique. Et donc, quand ça se passe là-bas, c'est nos frères qui sont toujours touchés.
Il y a Excellence Trump Kaba qui dit dans son commentaire « Non, il ne faut jamais tendre la main à ce groupe de gang. Il faut ne même pas parler de la négociation parce que vous aurez donné une carte blanche à ce groupe et cela va contribuer à la création de plusieurs groupes de ce genre d'attaque et civisme. Le problème est que l'État nigérien n'agit pas en tant que État, il y a trop de laxisme dans les opérations militaires au niveau des Nigériens. C'est le grand problème qu'il faut d'abord régler pour faire la paix. Il faut préparer la guerre, c'est une vérité absolue. C'est la violence qui arrête la violence. D'ailleurs, je ne peux pas comprendre ce qui se passe au Nigeria avec son économie et sa puissance démographique, mais il refuse d'acheter des équipements moderne pour l'armée afin de lutter efficacement contre ces groupes armés. Ils ne font que du semblant. Rien n'est clair et précis et aucune cohérence de la part des autorités nigérianes. Que Dieu protège les Nigériens. Vincent, un petit commentaire sur l'avis de Kaba.
Oui, effectivement. Vous savez, monsieur le journaliste, ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas pu avoir la chance de combattre ces terroristes qui sévissent partout, un peu partout dans le monde entier. D'abord, dans les pays à grande puissance où on fabrique les armes nouvellement sorties. Donc, je vais parler des États-Unis d'Amérique et aussi la Russie. Ces pays-là n'ont pas pu vaincre ces terroristes. Mais si on n'a pas pu prendre ces voies, ces moyens, comment nous allons protéger les pauvres populations, les pauvres peuples qui n'ont rien contre la politique actuelle? Donc, je vois que notre moyen facile pour pouvoir lutter contre ce fléau, cette maladie, c'est que nous devons passer à la table de négociation et aussi à la table au dialogue pour pouvoir trouver un consensus. Mais après cela, si ça continue, là, il peut passer par autre moyen. Parce que ces gens-là, ils ont les lignes médiatiques, les lignes téléphoniques et aussi Internet. Chaque fois, même ce que nous disons actuellement, ils sont tous au courant. Mais comment nous allons faire alors que quand ils s'organisent là-bas, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir les écouter. Et nous n'avons même aucune personne, des personnes qui vont nous informer sur les moyens de préparation pour nous faire du mal. Donc voilà pourquoi que je ne suis pas d'accord avec mon compatriote ou bien mon compère qui a avancé ses idées.
Merci Vincent pour votre contribution et bonne soirée chez vous.
Merci beaucoup, cher Rajnais, bon suivi de travail.
À votre avis sur VOA Afrique.
Nous allons maintenant au Mali pour retrouver Diarra Kayoumé qui se trouve dans son village natal à Soninkéni. Diarra, bonsoir.
Oui, bonsoir et bonsoir à tous les relations de VOA Afrique et nos millions de auditeurs.
Faut-il négocier ou pas avec des gangs armés ou des terroristes?
Bon, je pense que vraiment, s'il y a des difficultés par rapport à la DECA, donc il faut qu'ils n'ont... Parce que, par exemple, s'il y a un problème, au moins c'est dans la famille, donc on doit s'asseoir pour faire réunir, pour discuter, donc pour trouver la solution. Parce qu'il faut imaginer les touristes, ils ne cherchent pas à comprendre. Donc, ils ont vraiment demandé aussi la négociation. On peut négocier avec eux. Mais d'après les Américains, ils disent ne négocient pas avec les touristes. Mais si on n'est pas là à négocier avec les touristes, ce n'est pas facile pour résoudre les problèmes. Parce qu'ils ont, ils ne regardent pas, ils sont en train de faire gâtement seulement partout dans le monde, surtout dans mon pays comme le Mali. Il faut imaginer depuis le coup d'État a été fait, donc d'aujourd'hui, il y a certains vraiment secteurs au Mali, donc pour trouver au moins, par exemple, le coût de voyage, c'est pas facile, surtout au nord. Donc je pense que vraiment, si on n'a pas négocié avec eux, c'est pas facile de trouver solution avec ce problème. Eric?
Par exemple, on a vu ce que les négociations ont donné dans la libération de plusieurs otages au Mali, n'est-ce pas? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne approche?
Oui, effectivement, c'est une bonne approche aussi parce que si tu avais que les touristes dit si on n'a pas fait de négociation, ils ne libèrent pas certaines personnes, c'est à cause de vraiment et leurs gars aussi parce qu'il y a des camps. Donc, si ils disent on a qu'à libérer leurs gars, donc nos autorités aussi demandent aussi ils n'ont qu'à libérer certaines personnes qui étaient au moins dans leur mais surtout les cas de Soumaïla Cissé. J'ai vu, non, quand ils ont fait une négociation, ils ont libéré Soumaïla Cissé, et puis avec certains Français aussi, Sophie Mado, Sophie Poimem, donc ils étaient libérés, donc c'est pas facile, parce que s'ils ont demandé la libération, s'ils ont pris les gens en otage, c'est pas facile, parce qu'ils vont faire au moins se torturer là-bas, donc s'ils ont fait une négociation, donc c'est obligatoire, on va accepter de faire une négociation pour libérer les décans. Donc, c'est à cause de ça vraiment, il prend les gens en otage pour disparaître avec eux. Surtout au Mali, il faut imaginer, il y a certaines aussi personnes qui étaient pris en otage jusqu'à aujourd'hui, on ne trouvait pas, les parents ne trouvent pas leurs nouvelles. Donc, c'est pas facile, il faut imaginer vraiment en Afrique, vraiment, les Africains, eux, ils ont beaucoup de difficultés de jouer à cause des touristes. Sinon, avant, l'Afrique de l'Ouest même ne connaissait pas les touristes, mais c'est devenu populaire maintenant.
Comment faire en sorte que ce genre de négociation n'encourage pas l'impunité?
Donc, c'est pas facile, c'est partout dans le monde. Même quand ils regardent la Syrie, quand ils regardent la Libye, quand ils regardent au moins c'est vraiment au Nigeria, donc leur armement c'est lourd, que vraiment l'armement de notre force spéciale. Donc, je ne comprends pas quoi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vraiment ils financent les touristes. Sinon, les touristes quittent les armements lourds où? Et puis, ils gagnent le carburant où? Au Mali, ici, il y a certaines personnes qui étaient prises dans l'armée et financent les touristes par rapport au carburant.
Merci beaucoup, Diarra Kayoumé, pour votre contribution dans, à votre avis. Bonne soirée chez vous dans le village de Soninkéni.
Ok, merci, au revoir. Bonne soirée à vous.
Et d'un façon, bonsoir, Moussa.
Oui, bonsoir.
Faut-il négocier ou pas avec les terroristes?
Moi, je pense que la négociation n'est pas la solution. Hein. Parce que on connaît pas les individus qui nous amènent ce phénomène. Donc, moi, je pense que la négociation n'est pas la solution. Parce que, bon, au moins, si tu connais la personne qui le fait, bon, et puis, bon, deuxième chose, même chose, c'est faire connaître. C'est que ce dernier l'avait avant de négocier. Parce que on ne peut pas négocier avec des gens qu'on ne connaît pas. On ne les connaît pas. Donc, moi, je pense que les Africains doivent dire clairement à nos colonisateurs parce que on va comprendre que bon après qu'ils sont en bourse là-bas, les gens la passent où pour entrer dans leurs mains parce que je pense que ça vient de l'Europe ou bien bon je ne sais pas quoi. Et que sûrement, je pense que les blancs là doivent faire attention avec ces gens et puis avec le trafic d'armes là, parce que tant qu'ils n'ont pas d'armes, ils ne vont pas s'attaquer les pays subsahariens comme Ce qui est sûrement, je pense que c'est ça la solution, quoi. Ils n'ont pas essayé d'identifier, bon, peut-être les armes là, ça vient de tel pays, donc ils n'ont pas mis point là-bas, ils n'ont pas arrêté de trafiquer les armes, parce que sans les armes, je pense que les djihadistes ne pourront pas faire des choses.
Oui, là-bas, mais il y a d'autres qui approuvent la démarche de négociation.
Bon, ce qui parle de négociation, moi, je pense que ce n'est pas la solution. Parce que les Maliens, ils ont fait ça en 2020. Ils ont négocié et puis libéré les chefs de l'opposition. Ils ont libéré quelques individus. Bon, je pense que ce n'est pas la solution. Malgré tout ça, au Mali, là-bas, ça tue toujours, hein. Donc, je pense que ça, ce n'est pas la solution. Moi, ce que je veux dire sur ça, avec la négociation, ils n'ont qu'à dire aux blancs seulement, arrêter de donner des armes aux individus de nous attaquer. C'est ça qui est la solution, quoi. Parce qu'on sait qu'au moins, il y a des gens qui le financent, parce que sans ce financement-là, ils ne pourront pas faire quelque chose. Avec les armes, là, je sais qu'il y a des gens qui le donnent, et puis il y a des ressources aussi qui sont là. Les pays qui financent tout ça là, ils n'ont qu'à faire ça, identifier ces pays, et puis ils vont mettre le point sur les yeux. Et puis la vie continue là.
Mais par exemple, dans votre pays, le gouvernement envisagerait de négocier avec des terroristes pour sécuriser la partie en crise.
Mais moi, je tiens à vous dire que le président français, il a tenu une fausse information, hein. Il a répondu aux journalistes qui lui a posé des questions. Il a dit que non, le gouvernement burkinabé n'a jamais prononcé le nom de Gauchy avec les terroristes. Donc, je pense que le président Macron, bon, lui aussi, il a parlé ça parce que les responsables, à quelque part, là-bas, sinon, le burkinabé n'a jamais décidé de négocier avec les djihadistes. Il n'a jamais dit ça.
Moussa, tout repose sur les rapports de force, mais si. Vous n'êtes pas à mesure de les vaincre militairement. Quelle sera d'autre solution?
Moi, je pense que la solution, c'est de neutraliser quelques individus et d'en retirer des armes, au moins. Les armes que vous avez pu retirer, on n'a qu'à voir le pays que ça vient. Parce que si les armes, ça vient de l'Europe, on n'a qu'à dire aux Européens d'arrêter de donner des armes aux individus pour qu'on vienne les tuer ici. Moi, je pense que. On ne peut pas permettre des gens comme ça de financer des djihadistes pour qu'ils viennent nous tuer.
Qui finance les djihadistes?
Moi, je pense que, bon, en tout cas, moi, je pense que les djihadistes, ils ont un financement parce que, je sais que les armes, les djihadistes ne pourront pas fabriquer les armes. Les armes, là, ça vient d'un pays que moi, je ne peux pas identifier.
Dans la lutte contre le terrorisme, par exemple, il y a. Des militaires étrangers qui combattent aux côtés des gouvernements des pays du Sahel. Et ces militaires aussi enregistrent des victimes dans leur rang. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent vendre des armes à des gens qui viennent les tuer après?
Mais c'est un journaliste. De vous à moi, est-ce que. Est-ce que des djihadistes peuvent trouver des armes dans les forêts là où ils habitent? Mais ça vient de quelque part. Donc, si ils ont des kalachnikovs, quoi, et puis ils tuent des gens, je pense que là où ils payent les armes, là, ils ont signé un accord pour qu'ils viennent payer des armes. Sinon, ça ne fait que ça. Je pense qu'ils ne peuvent pas fabriquer des armes. Donc, ça vient d'un pays qui a signé un accord avec eux. Et puis, tout le monde vient dire que non, on va vous aider avec les soldats. Bon, écoutez. Les soldats sont là depuis. Il y a l'amunissement, il y a la force d'Arkan qui sont au Sahel depuis là. Mais ça ne cesse pas. Tant qu'on vient tuer des gens là-bas, non? Mais ils sont là pour ça.
Ils sont aussi victimes comme les autres. Donc pour vous, il faut enquêter pour connaître les sources de leur approvisionnement, des financements et d'où ils achètent les armes. Donc on ne peut pas accuser. Pour un instant, qui que ce soit, sinon ça ne serait que spéculer si on désigne un tel pays, n'est-ce pas? Merci Moussa pour votre contribution à votre avis. Merci beaucoup et bonne soirée chez vous au Burkina. Au Burkina Faso, nous retrouvons Charles Bazema. Bonsoir Charles.
Bonsoir à VOA.
Vous, vous êtes opposé à toute négociation avec les terroristes ou les ravisseurs. Je vous écoute.
Oui, bon, vous voyez, avant tout propos, je voudrais qu'on parle de ce qui pousse la jeunesse. Voilà, nous devons parler de la cause de ces kidnappings-là. Parce que et toujours, ça revient toujours dans le débat et les promesses non tenues de nos politiciens. C'est-à-dire, pendant les campagnes, ils nous promettent du miel, de tout. Ils nous promettent, une fois au pouvoir, ils ne tiennent pas leurs promesses. Encore, nous pouvons aller aussi sur les réseaux sociaux. La jeunesse regarde certaines images, certaines vidéos. Tout ça nous pousse à aller et on veut vouloir essayer. Et puis aussi, il y a des films. Il y a certains films en griffe américain, européen, bon, je ne sais pas, et qui parlent du braquage. La jeunesse aussi veut regarder ça et puis vouloir tester ça. Voilà. Ça, c'est la cause. On peut aussi parler aussi de l'éducation. Parce que dans l'éducation aussi, l'éducation africaine n'apprend pas à la jeunesse comme à te prendre. Voilà. L'éducation nous force et nous met dans une position où, si ce n'est pas la fonction publique, on peut réussir nulle part. Donc, c'est ça qui fait actuellement, quand vous voyez maintenant les postes à pourvoir pour l'équipement des fonctionnaires, vous voyez que le nombre de candidats dépasse le nombre de postes. Donc, une fois la jeunesse dans le chômage, il n'y a pas de boulot. Et puis encore, notre éducation ne permet pas d'entreprendre. C'est quoi on va faire? On va se lancer dans ces genres de trucs. Voilà, maintenant, nous allons parler de négocier. Moi, à mon avis, je ne sais pas si c'est sur quoi ils vont se baser pour négocier avec un kidnappeur. C'est quoi? C'est quoi on doit se baser pour négocier avec un kidnappeur? Moi, je ne vois pas. Au moins, je peux dire, ils n'ont pas une cause qui défend. Voilà, s'ils avaient une cause à défendre, là, on peut se baser sur la cause et puis négocier avec eux. Mais on va négocier sur quoi? Quelqu'un qui vient, il enlève et un membre de ta famille, il part à quelque part, il fait la vidéo, il te demande de faire une rançon. Comment tu peux négocier avec ce dernier-là? Au moins, on peut négocier avec ceux qui ont une idéologie, par exemple les djihadistes. On peut négocier avec eux, parce que mais kidnapping là, d'ailleurs, même si on négocie avec un kidnapper, on va aussi engendrer d'autres qui vont nier. Parce qu'ils vont dire, voilà, ils ont négocié avec lui là. Pourquoi pas nous? On va même, il y aura une boîte de Pandore qui va s'ouvrir. Et ça sera très grave pour notre pays. Normalement, on ne doit pas négocier. Nous devons d'abord combattre la cause. C'est la cause qu'on doit combattre, non négocier. Et la gâchis, la corruption et la malgouvernance. C'est tout cela qui fait que la jeunesse se retrouve dans un désert, si on peut me permettre le mot. Ils ne savent pas où aller. Ils sont obligés de rentrer dans ces genres de trucs.
Merci, Charles, pour votre contribution. Bonne soirée.
Merci beaucoup et à demain.
Nous avons un commentaire de notre auditeur en Guinée-Conakry, Diallo Tierno Oumar Diallo, qui dit... Je cite, « Je pense que sans un dialogue franc entre les rivaux, pas de paix, aussi longtemps qu'on utilisera la force contre une partie de notre peuple, cela aura toujours des scénarios méconnus, donc des résistances pour mettre fin à l'insécurité. Il faut essayer de chercher les vrais responsables et aller autour de la table. » C'est l'avis de Oumar Diallo. Asmaïlou, il est au Togo, il dit oui, une négociation pour sauver des vies est très importante, mais négocier avec des terroristes, je n'approuve pas, car les terroristes veulent juste des favoris, et car les terroristes veulent juste des faveurs au niveau du gouvernement, il faut alors s'en méfier. Il y a Vasiki Bamba qui dit « Si on t'arrache ton bien avec la violence, tu répliques ou tu vas négocier, seul négocier avec les terroristes peut nous aider à mettre fin aux problèmes sécuritaire, Jonathan Chiswaka, il est en RDC Congo. Il dit une négociation qui aboutira à aucune perte de vie sera louable, mais il ne faut pas laisser impuni ce genre de kidnapping. Nous sommes en ligne avec Eric Chiasuma Kanumwambindi. Il se trouve en Afrique du Sud, à Johannesburg. Bonsoir, Eric.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Faut-il négocier ou pas?
Non, je pense que dans tous les conflits, il faut d'abord chercher à dialoguer, tendre la main à son ennemi. Donc c'est un peu ça. Même dans le conflit politique, je ne sais pas, ethnique, il faut toujours dialoguer, il faut toujours privilégier le dialogue pour éviter d'utiliser, par exemple, recourir à la violence qui va amener à des pertes de vies humaines.
Même avec les terroristes?
Oui, pourquoi pas? Parce qu'ils ont, ils ont par exemple des revendications, ils ont des cahiers de charges. Par exemple, ils sont en train de revendiquer quelque chose. Vous pouvez toujours tendre la main, les écouter. C'est la meilleure façon de résoudre d'abord le conflit avant d'utiliser la violence ou répondre par la violence.
Eric, vous vous trouvez dans un pays où la culture du dialogue a été privilégiée avec la réconciliation entre l'ANC et le gouvernement de l'apartheid en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé?
Bon, je ne peux pas avoir l'idée générale de ce qui s'est passé, mais apparemment, le chose s'était bien produit parce qu'actuellement, nous voyons cette l'harmonie, la manière de vivre entre le blanc et les noirs. Ils sont en parfaite harmonie. Ils ont réussi par le dialogue à quitter de ces régimes de l'apartheid à un régime, par exemple, je peux dire, démocratique.
Mais il y a eu un prix à payer.
Oui, dans tous les conflits, il y a toujours il y a eu toujours des problèmes, mais il y a aussi un moyen de les résoudre sans que les sangs puissent couler. Parce que voilà pourquoi on parle du dialogue avant de se lancer dans d'autres, voies qui peuvent recourir à des pertes de vies humaines. Voilà pourquoi il faut toujours, dans tous les conflits, n'importe quel conflit, il faut toujours privilégier le dialogue.
Et avec les ravisseurs?
Oui, même avec les ravisseurs, pourquoi pas? Ils ont des revendications, il faut tenir compte de leur cahier des charges, voir si c'est possible de négocier avec eux. Si par exemple cela n'est pas possible, ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez recourir à la violence.
Il y a Bangali Kuruma qui dit sur notre page Facebook, je cite, « Les autorités nigérianes ont une fois encore montré qu'ils sont eux-mêmes à la base de l'insécurité qui sévit aujourd'hui dans leur pays. C'est avec toutes leurs richesses et moyens, ils n'arrivent pas à arrêter les petits criminels. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'ils feront pour lutter contre les djihadistes de Boko Haram. Vraiment dommage pour l'Afrique et surtout les Nigérians doivent arrêter maintenant de considérer leur pays comme une puissance régionale et faire appel à des forces étrangères pour leur venir en aide, car cette situation les dépasse clairement. Eric, votre point de vue?
Je pense que si, par exemple, le gouvernement nigérien, vous savez, aujourd'hui, la guerre a changé de méthode. Si le gouvernement nigérien n'a pas vraiment de moyens nécessaires pour combattre des djihadistes, ils ont le droit de faire appel aux forces étrangères qui peuvent leur aider avec la nouvelle technologie de bien combattre le djihadiste, les Nigériens et les Nigériennes. Donc, c'est la seule solution que le gouvernement peut prendre. Parce que si le gouvernement se dit que non, je dois satisfaire une catégorie, telle catégorie, ça ne marchera pas. Il y aura toujours des critiques. Le gouvernement doit suivre la voie qui lui semble bon, afin de restaurer, par exemple, la paix dans la région concernée.
Merci, Eric, pour votre contribution dans À votre avis. C'est avec vous que nous mettons un point final à cette édition de À votre avis ce soir. Merci. Merci à Michel Joseph qui assurait la mise en onde. Eric Manilakiza était avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end. À la prochaine.
Merci. Merci, Paris.